Vous êtes sur RTL. RTL Midi,
le 12-30,
avec Amandine Bégaud.
Et bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour RTL Midi. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h30. Deux heures d'infos, de débats, mais aussi d'opinions avec vous, les auditeurs. Vous avez la parole, comme tous les jours, dès 13h. Appelez-nous au 3210. À la une, ces incendies en Gironde et déjà 1700 hectares de pins détruits. Nous irons sur place dans un instant. Des incendies attisés, bien sûr, par la vague de chaleur qui gagne désormais toute la France. Bonjour Claire Delorme.
Bonjour Amandine, bonjour à tous.
On attend cet après-midi 37 degrés à Rennes, 38 même à Nantes.
En effet, des températures vertigineuses pour cette mi-juillet. Nous sommes à plus de 10 degrés au-dessus des normales. Les fortes chaleurs jusqu'alors présentes dans le sud vont s'étendre cet après-midi vers les régions du nord avec des pointes de plus de 36 degrés dans le quart nord-est et régions parisiennes et jusqu'à localement 39 degrés, que ce soit dans le sud-ouest et vallée du Rhône. Je rappelle que 7 départements sont en alerte canicule.
Dans ce journal également, le panier RTL en forte hausse et puis Salah Abdeslam transféré en Belgique. Sur le Tour de France, 11e étape aujourd'hui. Le peloton vient de s'élancer. Nicolas Georgerot, vous êtes sur la moto RTL.
Bonjour Amandine, bonjour à tous. Oui, cette 11e étape entre Albertville et le col du Grane. On départ très exactement dans quelques secondes. C'est l'une des étapes cruciales de ce Tour de France 2022. Une d'une soixantaine de kilomètres dans la plaine avant le Télégraphe, le Galibier et le Granon qui fait son retour 36 ans après l'arrivée au sommet tout à l'heure à 2400 mètres. Pogacar, Vingegaard, mais aussi les Français, Gaudu et Bardet, 6e et 7e du général. C'est l'heure de vérité. À tout à l'heure.
Ouais, tout à l'heure, Nicolas, on vous retrouvera bien sûr toutes les demi-heures pour faire le point à 12h50 RTLC. Vous, votre rendez-vous de la mi-journée sur la route du Tour avec Christophe Paco. Et puis juste avant, la politique, ce premier revers pour le gouvernement à l'Assemblée nationale, les députés LR, RN et LFI ont rejeté une partie du projet de loi sanitaire. Notre question du jour sur RTL.fr, 5e mois de hausse pour le panier RTL. Devez-vous vous priver de certains produits? Vous dites oui à 63%. Vous pouvez d'ailleurs réagir sur ce sujet, celui de la hausse des prix. Je vous le rappelle, vous avez la parole, je vous attends dès 13h.
RTL Midi.
Mais pour commencer, donc direction la Gironde. Deux incendies et déjà 1700 hectares détruits. Le premier, c'est à la teste de bûche près de la dune du Pila. Les 6000 personnes évacuées hier soir de 5 campings n'ont toujours pas pu regagner leur lieu de vacances, Denis Grangeau.
Oui, toujours énormément de monde ici au parc des expositions. En plein soleil, c'est vraiment un camping à ciel ouvert avec énormément de camping-cars, de voitures avec des immatriculations de toute la France. Les gens qui se répartissent soit dehors, à l'ombre des arbres, soit à l'intérieur du parc des expositions.
Eh bien, hier soir, nous avons vu de la fumée, rien d'inquiétant. On s'est couché et à 3h30, on est venu nous réveiller pour nous dire évacuation feu. Donc là, on a tout mis à la rage dans la voiture, tout ce qu'on a pu mettre. Et puis on est arrivé ici.
Beaucoup de bruit, mais on a des gâteaux, on a tout ce qu'il faut, les gens s'occupent de nous.
On va aller se reposer autour d'un lac à l'ombre, parce que comme il va faire chaud, on ne peut pas rester dans la voiture. Puis là, sur le parking, c'est pas l'idéal non plus, quoi.
Les gens sont un peu perdus, les gens sont même choqués. Hein.
Stéphane Pellizzari, le directeur général des services de la mairie de la Teste.
On va mettre en place avec la protection civile, les cellules d'accueil psychologique. C'est totalement hors norme, exceptionnel, et j'espère que surtout, on va très bien s'en sortir, qu'on ne revivra pas ce type de situation.
Et ici, les vacanciers à la mi-journée attendent bien sûr des réponses pour savoir s'ils pourront rentrer ou non dans les campings, les 5 campings qui ont été évacués. Les pompiers continuent de combattre les flammes au pied de la dune du Pila.
Denis Grangeau, au parc des expositions de la Teste de Buch. Bonjour Nerissa Emani, vous êtes justement au PC Sécurité. Où en est le feu?
Eh bien, alors où l'on parle, le feu n'est toujours pas fixé. 700 hectares de forêt ont brûlé à la Teste de Buch. 200 pompiers de la région sont mobilisés pour lutter contre les flammes. Une centaine d'autres sont attendus. Ils viennent de l'ouest de la France, du sud-est et de l'Île-de-France. Pour les moyens mis en place en ce moment, nous avons 2 avions bombardiers d'eau. 2 autres sont attendus, 4 au total. Les pompiers s'attendent à ce que la situation évolue défavorablement à cause du vent qui va se relever cet après-midi. Un vent venant du nord-ouest. Les températures au-dessus de 30 degrés et le faible taux d'humidité vont également compliquer la tâche des pompiers ces prochaines heures et ces prochaines jours.
Nerissa Emani, aux côtés de ces pompiers donc, qui combattent le feu au pied de la dune du Pila. L'autre incendie, c'est celui qui s'est déclaré hier aussi à Landira. C'est une quarantaine de kilomètres au sud de Bordeaux. 1000 hectares de pins ont déjà été détruits. Le feu n'est pas encore totalement maîtrisé, mais il ne progresse plus, Patrick Tégéraud.
Oui, ce matin, il n'y avait pas de vent, alors le feu n'a pas progressé. Cette nuit, par contre, c'était un cauchemar. Denis est sapeur-pompier volontaire à Préchac. Quand je l'ai croisé tout à l'heure, il rentrait dormir, épuisé. Il était au feu depuis 8 heures du soir.
Moi, en 35 ans de carrière, j'ai jamais vu ça. Feu comme ça, dans tous les sens. Il y en a partout, quoi. Il y en a de tous les côtés, ça a traversé les routes. Et heureusement, il n'y a pas eu de blessés. La population a été évacuée et tout. Voilà, ça s'est très bien passé, quoi.
C'est formidable, vous avez bien bossé, quoi.
Je pense.
100 hectares ont brûlé, 520 personnes ont été évacuées du village de Guillos. Ce matin, c'était l'accalmie, mais elle n'a pas duré très longtemps. Le feu est parti de Landiras, où se trouve le poste de commandement des pompiers. Le maire, Jean-Marc Pelletan, et le sous-préfet, Vincent Ferrier, y faisaient un point de situation tout à l'heure.
La seule chose que je viens de savoir, c'est que le feu est en train de repartir.
Ouais. Là, vous voyez, le vent est en train de forcir un peu, et on sait qu'avec le vent qui forcit, avec les températures qui remontent, on a des sautes de feu, et donc des secteurs où le feu s'était calmé qui vont repartir.
Monsieur le maire, vous n'êtes donc pas totalement soulagé à cette heure-ci?
Pendant quelques semaines, on ne va pas l'être. Hein. Parce que ce feu, certes, comme dit monsieur le sous-préfet, il est fixé. Mais après, il faut le garder.
300 pompiers et 4 Canadairs restent donc engagés contre ce feu, le plus important qu'ait connu la Gironde.
Patrick Tégéraud à Landiras. J'ajoute que Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, annonce qu'il se rend sur place en Gironde cet après-midi. Ces incendies sont bien sûr attisés par la chaleur, jusqu'à 39 degrés attendus aujourd'hui dans le sud-ouest, 36 à Paris. Nathan Bocard, vous êtes au Trocadéro.
Oui, je suis face à la Tour Eiffel, Amandine, et la Tour Eiffel est sous un soleil de plomb. Plus de 30 degrés ce midi au Trocadéro, c'est chaud, mais pas assez pour faire fuir les touristes. Anne-Sophie arrive de très loin pour voir la Tour Eiffel.
Effectivement, on a beau habiter en Martinique, on a un petit peu chaud, j'avoue.
Est-ce que c'est quand même agréable Paris sous cette chaleur ?
Bah oui, c'est pas mal, les enfants.
Oui.
J'avoue qu'on va quand même pas rester trop longtemps, on va peut-être aller sur les musées après.
Oui, ça change un peu vos plans quand même, la chaleur ?
Un petit peu, oui.
Alors à quelques pas d'ici, les touristes vont se mêler aux Parisiens sur le marché du quartier. Et chaleur oblige, ils adaptent un petit peu leurs emplettes. Rémi est primeur sur le marché.
Ils vont préférer des melons, des pastèques, tout ce qui est un peu à base d'eau. Quand c'est des touristes, c'est des petits trucs à la sauvette, comme ça va être un petit peu de cerise, ils vont demander un petit quart de pastèque coupée, enfin voilà, un petit peu d'abricot. C'est rafraîchissant et que c'est ce qu'ils préfèrent.
Alors ici, les primeurs ne sont pas les seuls à faire des affaires. Les vendeurs de bouteilles d'eau à la sauvette sont très populaires ce midi.
Effectivement, forcément, on s'en doute. Merci à vous, Nathan Bocard, en direct du Trocadéro à Paris. Cette vague de chaleur devrait durer au moins jusqu'au début de la semaine prochaine. Ce matin sur RTL, François Braun, le nouveau ministre de la Santé, a appelé chacun à la responsabilité.
Pas de sport, hydratez-vous régulièrement, a fortiori. Et puis, là, je vous l'annonce, j'ai demandé que le numéro vert Canicule Info Service soit remis en place aujourd'hui à 14h.
Monsieur le ministre, un numéro vert, ça n'a jamais apporté une bouteille d'eau à une personne âgée. Et on l'a entendu, il y a un problème de personnel.
Bien sûr, il faut se préoccuper. Mais là aussi, j'en appelle à la solidarité au sein de nos quartiers, au sein de nos villages, pour surveiller, protéger les personnes les plus à risque, les personnes les plus fragiles. La canicule, il faut aussi apprendre à vivre avec. Nos concitoyens du sud de la France ont les bons réflexes. Ça n'empêche rien, mais quand même, il faut qu'on ait les mêmes réflexes dans le nord de la France.
Le ministre de la Santé, invité de Benjamin Sportouche ce matin sur RTL, des propos qui ont fait bondir Didier Birigue de Force Ouvrière Santé.
La réponse que nous fait le ministre est une vraie provocation pour l'ensemble du milieu hospitalier et des EHPAD. Il manque aujourd'hui 100 000 agents dans les EHPAD, de telle manière à avoir un ratio d'encadrement de 1 pour 1, ce qui était promis en 2012, que nous n'avons jamais obtenu. Aujourd'hui, on est à quelques heures de cette grande chaleur qui va étouffer la France. Les personnels vont encore se démultiplier. C'est purement scandaleux. Nous avons un gouvernement qui est dans un état catatonique au niveau de la santé et c'est eux qui en portent la responsabilité. Et moi, je n'ai pas honte ni peur de le dire.
Didier Birigue, représentant de FO Santé au micro RTL. Dodile Pouget, gros coup de chaud également sur notre panier RTL. C'est, vous le savez, notre baromètre du pouvoir d'achat depuis octobre. 13 produits du quotidien achetés chaque mois dans les mêmes grandes surfaces à Paris et en région. Bilan, le ticket de caisse est encore en hausse pour le 5e mois consécutif, plus 18,12% en 9 mois. Bonjour Pierre Herbulot.
Bonjour.
La hausse est encore plus forte pour les produits de marques distributeurs.
Oui, ce sont les marques des grandes surfaces comme Chabrieur chez Intermarché, Carrefour Classique chez Carrefour ou Marque Repère chez Leclerc. Des MDD comme on dit, qui tirent le prix du panier à la hausse. Depuis octobre, leur prix a progressé de 20% contre 15% pour les grandes marques. Ces produits censés être moins chers sont donc de moins en moins compétitifs. Sur le parking d'un hypermarché de région parisienne, Martine fait la démonstration avec du maïs en boîte.
Cette marque, on ne cite pas qui commence par un B,
Elle est au même prix, pas plus chère que la marque distributeur, ou à peu près. Maintenant, cette année, il faut faire attention. Quand c'est marqué Carrefour, c'est peut-être plus cher que d'autres marques.
Ça, c'est vrai pour toutes les enseignes dans nos relevés de prix. Et effectivement, on a vu depuis le début de l'année des MDD devenir plus chers que des marques. Une bouteille d'huile, une barquette de steak haché, une boîte de 6 œufs. Ce qui désespère Diana en train de ranger ses courses.
Il n'y a plus de classe moyenne. C'est les riches et les pauvres. Et la classe moyenne, ici, on coule.
La seule alternative pour elle, c'est de se tourner vers des produits premier prix bas de gamme.
Merci à vous Pierre Herbulot pour ces explications. Conséquences directes de l'inflation, c'est automatique. Hein, au-delà d'un certain niveau, le SMIC sera à nouveau revalorisé, plus 2% au 1er août. Le taux du livret A, lui, devrait passer à 2%. Et puis ça y est, le gouvernement a enclenché la nationalisation d'EDF, la renationalisation. Le titre est suspendu depuis ce matin à la Bourse de Paris. L'État doit donner les modalités au plus tard le 19 juillet. Dans l'actualité également, je vous le disais, Salah Abdeslam qui a quitté la prison de Fleury-Mérogis. Il a été extrait ce matin pour être transféré en Belgique. C'était prévu ça, Cindy Hubert ?
Oui, cela fait déjà plusieurs semaines que les autorités belges et françaises travaillent ensemble sur ce transfert de tous les dangers. Car un autre procès attend Salah Abdeslam en Belgique à la rentrée, celui des attentats de Bruxelles. L'audience doit durer près de 9 mois. Il fallait donc que l'accusé puisse préparer sa défense. Depuis ce matin, 10h, Salah Abdeslam est donc dans les mains des Belges, escorté par le GIGN. En hélicoptère. Il est incarcéré à la prison d'Ittre, selon nos confrères de la RTBF. C'est au sud de la capitale. Prison haute sécurité avec une aile dédiée aux détenus terroristes. Les Belges appellent cela les sections d'Eradex, une prison dans la prison. Selon nos informations, une fois son procès belge fini, Salah Abdeslam doit revenir en France, mais il pourra ensuite demander de purger sa peine, la prison à vie, en Belgique, près de sa famille.
Merci à vous pour ces explications, Cindy Hubert, du service police justice de RTL. 12h42, vous restez avec nous dans un tout petit instant. Retour sur ce qui s'est passé cette nuit à l'Assemblée nationale. Premier revers pour le gouvernement. À tout de suite.
RTL Midi avec Amandine Bégaud. RTL Midi avec Amandine Bégaud.
Je vais donc mettre aux voix l'article 2. Le scrutin est clos. Votants 437, exprimés 414, majorité 208, pour 195, contre 219. L'article 2 est rejeté.
C'était cette nuit à l'Assemblée nationale. Premier revers pour le gouvernement. L'article 2 du projet de loi sanitaire, celui autorisant un éventuel retour du pass sanitaire aux frontières, était rejeté. Un coup dur. Est-ce le premier ou non d'une longue série ? On en débat avec vous, messieurs, Benjamin Sportouche et William Galibert. Bonjour à tous.
Bonjour.
Les deux.
Bonjour.
Bon, ça me fait plaisir de vous retrouver. L'heure est grave, a tweeté Elisabeth Borne, qui regrette que les députés LR, RN et LFI aient fait front commun. Elle a raison, la première ministre, ou elle dramatise ?
Bah, écoutez, c'est normal, elle est dans son rôle. Hein. Elle vise d'opposition quand on peut empêcher ce premier texte qui était important. Et c'est une remise en question de ce que fait le gouvernement. Donc c'est aussi la preuve qu'il peut y avoir une opposition qui met en cause les projets du gouvernement. Ça va être peut-être en effet un scénario qui va se répéter. Alors ils disent qu'il y a une collusion entre la France insoumise et le Rassemblement national. Bah, en même temps, chacun est une opposition qui estime qu'il doit défendre ce qu'il porte pendant la campagne présidentielle. C'est pas nouveau, disons-le très clairement, ils ont défendu leur volonté de mettre en cause le pass sanitaire. Eh bien, ils le font dans l'hémicycle. C'est vrai que peut-être qu'Elisabeth Borne pensait que le compromis serait plus facile à trouver. Il ne le sera pas. On rentre dans l'ère du compromis des coalitions. Et parfois, ces coalitions, elles ne se trouvent pas. Ils ont beaucoup compté sur les Républicains. Les Républicains n'étaient pas au rendez-vous, en tous les cas, cette fois-ci. Donc, j'allais vous dire, ça va être du bricolage systématique.
Mais ça va être tout comme ça pendant 5 ans ?
Ça sera forcément... ça peut prendre cette tournure, oui, en effet, parce que chacun, en tous les cas, dans les premiers mois, sera dans une défense de leur programme et présidentiel et législatif.
Alors, sauf que si je peux me permettre, William, le compromis, c'est pas que dans un sens. C'est pas...
C'est ça. Pour l'instant, le petit jeu, c'est pas moi qui n'accepte pas la main tendue. C'est pas moi, c'est l'autre. Au bout d'un moment, il va falloir rentrer dans le dur, voir qu'est-ce que la majorité peut lâcher sur ces textes pour justement attirer vers elle des voix de droite modérée, de gauche modérée. Vraiment, rentrer dans cette culture du compromis. Pour l'instant, l'heure est grave, elle est surtout grave pour Elisabeth Borne et ses troupes.
Qui avait plutôt bien réussi ses deux premiers passages devant l'Assemblée.
Ça restait des discours à la tribune. Maintenant, il faut rentrer dans le dur avec des comptes arithmétiques et l'heure est grave parce qu'ils se rendent compte qu'effectivement, C'est différent quand on a 320 députés ouais. et que tout passe crème. Et c'est différent quand on a une majorité relative et qu'il va falloir s'accrocher, que parfois les choses vont se jouer à une voix près et qu'il va falloir sonner la mobilisation pour dire je veux tout le monde dans l'hémicycle parce que maintenant, ça va se jouer parfois à quelques voix.
Et c'est le cas. Alors attention, maintenant il y a le passage au Sénat.
Oui, alors, sauf que c'est majorité LR.
Oui, mais alors les LR du Sénat sont pas d'accord avec ceux de l'Assemblée. Ouais, c'est vrai que ça vient encore compliquer les choses, puisqu'au Sénat, le président du groupe LR dit Bruno Retailleau, dit qu'il est pour ce passe aux frontières. Alors, ça peut permettre au gouvernement d'avoir une majorité. Mais ensuite, ça reviendra à l'Assemblée. Et là, comme le dit William, il faudra quand même qu'il y ait une majorité pour le voter. Donc, rien n'est fait. Mais en même temps, j'allais vous dire, encore une fois, c'est peut-être cette démocratie parlementaire qui n'était plus à l'œuvre ces dernières années, alors que c'est quand même au cœur de la Constitution française qu'on le voit bien, elle revient sur le devant de la scène et elle s'applique.
Emmanuel Macron était hier en Isère, vous étiez avec lui, vous avez suivi ce déplacement, William Galibert. On va écouter cette petite phrase qui a suscité beaucoup de réactions.
J'ai été un ministre de l'économie qui s'est battu pour l'innovation, pour attirer des entreprises. Je me félicite de ce que j'ai fait. On a créé des milliers d'emplois. Donc moi, je suis extrêmement fier. J'ai vu des chefs d'entreprise étrangers, l'horreur. Je conçois tout à fait qu'ils veuillent s'attaquer à ma pomme. Ça fait 5 ans et demi, je suis habitué. Très sincèrement, comme disait un de mes prédécesseurs, ça m'en touche une sans bouger l'autre.
Alors, le président se défend après les attaques des oppositions sur le dossier Uber. Ce qui a le plus choqué, enfin choqué, non, il y en a que ça choque, il y en a que ça choque pas, c'est la dernière phrase, la référence à Jacques Chirac. C'était prévu ça, William ?
Ce qui était prévu, c'est la contre-attaque. Ça fait 2-3 jours que le président piaffait en lisant ses révélations de presse, ses articles de presse. Nous, on recevait des coups de fil des conseillers de l'Élysée pour dire « Allô, salut, tu veux qu'on parle d'Uber ?» Non, c'est pour te dire qu'il n'y a pas d'affaire derrière tout ça. Mais bon, s'il n'y a pas d'affaire, pourquoi tu m'appelles ?
Pourquoi, oui.
Voilà. Il était très courroucé parce qu'il a lu, parce qu'il considérait comme être de des attaques qui n'avaient pas lieu d'être. Donc, il avait envie de nous parler. On nous a ouvert la voie royale jusqu'à lui. Normalement, c'est pas comme ça que ça se passe. Là, pendant 6-7 minutes, il s'est épanché et il continue à répondre, même si on a retenu cette petite formule. Difficile de vous dire si cette formule en particulier était prévue. En tout cas, elle a accroché l'oreille de certains, même conseillers d'Emmanuel Macron, qui se sont dit « Bon, il ne faudrait pas qu'on retienne que cette formule et ce langage. »
Cette formule, Jacques Chirac ne l'a jamais prononcée publiquement, pas devant un micro.
Ce sont
on n'a pas l'enregistrement.
Des propos rapportés, mais oui, devant les micro-caméras, Jacques Chirac ne parlait pas comme ça.
Benjamin Sportouche, un président ne devrait pas parler comme ça ou...
Bah, écoutez, un président ne devrait pas parler comme ça. Je suis pas certain de ça. C'est-à-dire qu'après, c'est sa manière de parler à lui. Puis parfois, les Français le comprennent clairement. Là, on sent très bien, comme disait William, qu'il avait envie de se défendre lui-même. On disait que depuis demain, on l'entendait pas. Eh bien, on l'entend. On va l'entendre encore demain. Et puis finalement, j'allais vous dire, il a plus grand-chose à perdre. C'est son deuxième et dernier quinquennat, a priori, sauf s'il décide de se représenter ultérieurement. Ça, c'est une autre histoire. Mais pour l'instant, eh bien, écoutez, il pense qu'être sans filtre, ça ne lui portera pas préjudice.
Bon, et vous, on ne vous entendra plus sur RTL. On vous regardera dans vos nouvelles aventures. Un grand, grand merci, Benjamin. Je ne vais pas faire comme Pascal Praud, vous proposer de rester avec vos éditeurs. Je crois que vous avez plein d'autres trucs à faire. On vous embrasse très fort. Je vous souhaite plein, plein de bonheur pour la suite. Merci à vous.
Merci.
William, je compte sur vous demain pour le 14 juillet.
Oui,
oui. Eh ben non, mais vous serez là. Interview du président, on débriefera tout cela ensemble. Pour l'instant, on part sur le Tour de France. À tout de suite.
Au 32-10, RTL vous donne la parole.
50 centimes la minute.
Tour de France 2022.
RTL, chez vous.
Christophe Pacaud.
Bonjour Christophe.
Bonjour Amandine, bonjour à tous.
Le peloton vient de quitter Albertville, site olympique, il faut s'en souvenir, il y a 30 ans, direction le Granon, un des premiers hauts sommets du Tour, la Grande Boucle, donc au cœur de la Savoie. Et vous êtes, Christophe, avec l'une de nos plus grandes championnes de ski alpin, Perrine Pellen.
3 médailles olympiques en 84, championne du monde 85 et aujourd'hui directrice générale du comité d'organisation des mondiaux de ski 2023 à Courchevel-Méribel. Joli parallèle à venir entre ski et vélo avec Perrine Pellen. Le point étape du jour avec nos confrères du Parisien aujourd'hui en France, les souvenirs de Bernard Thévenet et bien sûr le coup de cœur de Laurent Jalabert. Quand le panda parle du blaireau. Et puis, quelle est l'étape reine pour vous de ce Tour 2022 ? Aujourd'hui, le Granon, demain, l'Alpe d'Huez. Réponse à venir aux côtés d'Hortense Crépin. RTL chez vous, c'est parti.
RTL chez vous, Christophe Pacaud.
RTL chez vous, au pied de la flamme olympique, pied d'un stade olympique, une championne olympique. Perrine Pellen, triple médaillée quand même.
Oui, c'est ça. Hein, et c'est l'occasion de rappeler le lien entre Albertville et les deux stations olympiques, Courchal et Méribel, qui vont accueillir les championnats du monde de ski. Deux grosses stations et voilà, qui vont être sous les projecteurs pendant 15 jours. Parce qu'il faut rappeler que ces championnats du monde, c'est l'événement le plus important pour les sports d'hiver après les Jeux olympiques.
Et Perrine Pellen, ça tombe bien avec le Tour de France, que c'est très compatible, parce que c'est le genre d'effort que vous avez pratiqué vous aussi quand on va monter le Granon ou demain l'Alpe d'Huez.
Alors c'est pas tout à fait, nous on descend, alors que le vélo ça se passe dans la montée.
Oui mais l'entretien contre...
Oui tout à fait, mais en fait ce qu'on peut dire c'est qu'il y a un lien extrêmement étroit entre la petite reine, le vélo l'été et l'hiver, voilà, quand on voit quelque part les grandes étapes du Tour de France, elles se passent dans nos stations de ski. Puis pour moi qui ai travaillé pour les Jeux Olympiques d'hiver ici à Albertville, c'est toujours une grande émotion, parce que les Jeux Olympiques, quand on y a participé, ça reste voilà, un moment fort qui reste pour la vie. Et c'est vrai qu'avec le recul, même si j'ai gagné plusieurs Coupes du Monde, et voilà, ce qui reste, ce sont les médailles olympiques. Et Albertville est olympique à jamais.
C'est un peu comme je sais pas, le coureur qui va s'imposer demain à l'Alpe d'Huez au Granon aujourd'hui, ça sera sa médaille, non?
C'est exactement ça.
Merci d'être venu jusqu'à nous aujourd'hui, Perrine Pellen, grande championne de ski. 3 médailles aux Jeux Olympiques, formidable. Lake Placid, Sarajevo, les années 80-90, quoi. Tout le grand ski.
Que du bonheur. Merci en tout cas de m'avoir reçu.
Tour de France 2022. RTL, chez vous.
Deux énormes sommets, le Granon, l'Alpe d'Huez. Ça y est, la grande bataille peut commencer. Christophe Bérard, aujourd'hui en France, le Parisien, bonjour.
Bonjour Christophe.
Parce que là, on va savoir si, par exemple, la Jumbo-Visma et de Roglic et de Vingegaard peut bousculer l'hégémonie du maillot jaune.
Absolument. Ce qui est certain, c'est que sur les monstrueuses pentes du Granon, aujourd'hui, les Jumbo ont un plan. Alors un plan, ça peut réussir, ça peut rater. Mais en tout cas, ce qui est prévu dans l'équipe néerlandaise, comme on les surnomme les abeilles parce qu'ils sont en jaune et noir, l'idée, c'est une forme de harcèlement, de piquer petit à petit Pogacar et son équipe. Alors, pour les affaiblir, ils sont déjà affaiblis par le Covid, ils sont affaiblis par la fatigue. L'idée, c'est d'isoler Pogacar assez vite. Ils vont attaquer, ils vont essayer. On ne sait pas si ça va réussir parce que Pogacar, il est capable de tenir seul face à une meute. Mais en tout cas, on a hâte de le voir.
La journée des abeilles sur le Tour de France pour faire le miel de vos lecteurs, évidemment.
Exactement, faisons le buzz.
Christophe Bérard, belle course. Aujourd'hui en France, le Parisien, à demain.
À demain, Christophe.
RTL, chez vous.
Bonjour Hortense Crépin.
Bonjour Christophe, bonjour à tous.
Comme tous les jours dans RTL chez vous, Hortense va à votre rencontre. Alors là, ça y est. Et après nous pas, c'est quoi? C'est le Granon ou c'est l'Alpe d'Huez?
Alors on va pas se mentir Christophe, il y a quand même une des deux réponses qui recueille le plus de suffrages, vous allez voir.
Le Granon, oui, mais je pense que ça va se jouer sur l'Alpe d'Huez.
L'Alpe d'Huez, est-ce que ça monte plus?
Quoi et vous madame?
Granon.
Ah, alors pourquoi, dites-moi.
Bah pour pas faire comme eux déjà.
Et le Granon, alors c'est comment? À quoi ils doivent s'attendre nos coureurs?
Bah, ils vont s'attendre à ce qu'aujourd'hui ils vont en baver.
C'est vrai.
Et demain. Et nous on le fait en moto, c'est royal.
Et en vélo?
Mais en vélo, ça va être terrible.
Il va falloir qu'ils se repoussent cette nuit, hein. Ouais, qu'ils dorment.
Donc si je résume, vous me dites Alpe d'Huez et votre épouse Granon. Voilà. Ouais. Je vais vous laisser disserter tous les deux pouvoir vous mettre d'accord. Merci beaucoup, bon tour.
Et n'oubliez jamais, tous les matins, le tour d'Hortense est à 8h45 sur RTL, bien sûr.
RTL, chez vous.
RTL, chez vous, avec la légende, Bernard Thévenet, double vainqueur du Tour de France, 75-77. Bonjour Bernard.
Bonjour.
On a deux géants devant nous, Granon aujourd'hui et Alpe d'Huez demain.
Deux montées qui seront très difficiles. Je dirais même presque trop difficile, parce que je pense que les coureurs vont avoir quelques craintes à s'engager avant.
Vous racontez des choses merveilleuses dans votre dernier ouvrage. Il faut le trouver en bonne librairie. On peut le télécharger aussi, j'imagine. Ça, c'est bien de retrouver le Bernard Thévenet qu'on n'a jamais oublié. Cette bagarre, ce duel au couteau face à Eddy Merckx.
Oui, oui. Surtout de démontrer qu'on peut être dans un milieu hostile au vélo, parce que c'est un petit peu mon cas. Bah, j'ai rêvé d'être dans le Tour de France quand j'étais tout petit et j'ai réussi à devenir. Et puis après, j'ai réussi même à le gagner. Donc, avec la passion et le travail aussi, ça c'est pas tout seul. Mais quand on est passionné, les sacrifices et tout ça, ça pèse pas du tout.
Et en plus, battre pas n'importe qui. Eddy Merckx.
Je vais faire le battre parce que j'ai gagné le tour deux ans après. On s'en est presque pas aperçu. Par contre, battre Eddy Merckx, oui, ça a beaucoup marqué la. Je lui dois 90% de ma notoriété à Eddy.
Quand même.
Il m'a embêté pendant des années. On devient bien ça aussi, lui.
Ah oui, et justement, juste un dernier mot peut-être sur cette sensation. Vous vous souvenez encore de l'effet d'avoir le premier maillot jaune sur les épaules?
Oui, oui. Il faut revoir les images de la télé, hein, mais la première remise de maillot jaune, c'était folklorique. Il y avait très peu de caméras à l'époque. La télévision belge avait demandé à pouvoir avoir une caméra sur Eddy Merckx. Mais il n'y en avait pas, il n'y avait que celle du podium. Donc on a fait monter Eddy sur le podium, donc se retrouver les deux maillots jaunes sur le podium.
Mais non,
c'est une des seules fois. Et comme, comme on était tous les deux sur le podium, les journalistes ont pensé que c'était le podium pour la presse. Donc il y avait plein de journalistes et presque plus de place pour nous. Un vrai fouillis, quoi.
Bernard Thévenet, double vainqueur du Tour de France, on n'oubliera jamais. Puis votre dernier livre, on le rappelle le titre ?
Bernard Thévenet, le mythe illustré. D'ailleurs, il y a eu Bernard Hinault, le mythe illustré. Donc,
tout simplement.
C'est la continuité. Illustré parce qu'il y a beaucoup de, il y a beaucoup d'images, il y a beaucoup de photos qui n'ont jamais été publiées, notamment quand j'étais tout petit.
Le petit nanar, le petit Bernard Thévenet. Salut Bernard, et bonne route jusqu'à Paris.
Merci, oui, merci. Bah, déjà, bonne route jusqu'à ce soir. Puis déjà, après, je pense à chaque jour suffit sa peine, hein, comme on dit.
C'est sûr, merci Bernard Thévenet.
RTL, chez vous, Christophe Pacaud.
Le coup de cœur de Laurent Jalabert. Bonjour à vous Laurent.
Bonjour Christophe, mon coup de cœur, c'est pour le blaireau, Bernard Hinault. Bernard Hinault, quand j'étais jeune, m'a donné envie de faire du vélo. J'avais envie de lui ressembler. Lorsque j'ai pris ma première licence, je regardais le Tour de France. Et il me fascinait parce qu'il avait cette hargne. Il voulait toujours dynamiter la course. Il disait « Demain, je vais tout faire péter ». Et le lendemain, quand il promettait, il faisait. J'adorais son caractère. Et je me rappelle, en 1986, sa dernière journée en jaune, c'était au col du Granon. On y revient tout à l'heure, au col du Granon. Et j'aurai une pensée, bien sûr, pour le blaireau qui a vécu ce jour-là une étape difficile. Et vous verrez que ce col, ça va en surprendre plus d'un.
Merci Laurent Jalabert. À ce soir, 18h30 pour
le Club Jalabert. À tout à l'heure, les amis.
Christophe Pacaud, RTL, chez vous.
Voilà, Amandine, hauteur, chaleur, légende du Tour au menu de cette 11e étape dans les Alpes.
Merci beaucoup Christophe, on vous retrouve bien sûr ce soir et dans un tout petit instant on fera le point sur cette étape du jour. On retrouvera Nicolas Georgerot sur la moto RTL.
RTL, chez vous.
Bientôt 13h, on fait le point sur l'actualité et bien sûr vous avez la parole 3210 pour réagir. À tout de suite.
RTL Midi.